Bien, donc je vous présente Frank Wagner. Il tient à ce que je vous rappelle qu'il a d'abord été professeur à l'université de Namur. À mon avis, c'est une partie de son curriculum vitae qu'on pourrait escamoter, mais enfin, il insiste. Donc actuellement, il est maître de conférence en littérature française du XXe siècle à l'université de Rennes 2. Il est membre des comités de rédaction des revues Enjeux et Vox Poetica. Et il travaille essentiellement sur la théorie de la littérature, poétique, théorie de la lecture, théorie de la fiction, et sur la littérature narrative de l'extrême contemporain. Il est l'auteur d'une cinquantaine d'articles et de communications parus dans Poétique, Protée, Narratologie, Études littéraires, Revue des lettres modernes, Roman 2030. Il a dirigé particulièrement un volume intitulé « Lecture de Julien Gracq ». Alors ça, je tiens à le souligner parce que, comme nous le savons tous, Julien Gracq est une des sources essentielles de la pensée et de l'écriture d'Antoine Volodine, dans un volume qui est paru, indispensable donc pour les Volodiniens, qui est paru aux presses universitaires de Rennes en 2007. Et il prépare actuellement un volume « Lecture de Robe grillée » à paraître aux mêmes presses en octobre de cette année. Et donc il va nous parler, l'intitulé de sa communication c'est « Des voix et rien d'autre » sur les voies narratives post-exotiques, essais de poétique. À toi.
Donc merci à Anne Roche pour cette présentation synthétique agrémentée d'un peu de poison. Et j'embraye sans plus attendre. Donc, dans l'œuvre post-exotique, à l'évidence, ça parle. Mais tout lecteur en aura fait l'expérience, il n'en est pas moins extrêmement délicat de déterminer avec assurance qui parle, d'où, quand, voire à qui et de quoi. Brouillé, diffracté, frappé de soupçons, dans ces fictions, l'origine de la parole narrative pose à plus d'un titre problème, du moins au lecteur épris de rationalité et par là même soucieux de clarifier le système vocal. Cependant, précisons d'emblée qu'il n'y a pas là matière à grief. Dans le cadre de l'expérience de lecture littéraire, mixte de processus primaires et secondaires, si le besoin de sens du récepteur le voue à un effort de clarification, autant et sans doute davantage qu'elle ne se décrypte, une voix s'écoute voluptueusement. Et le tremblement vocal, caractéristique de la parole post-exotique, est assurément pour beaucoup dans le plaisir que dispensent ces fictions. Toutefois, compte tenu du genre dans lequel s'inscrit mon discours, je ne peux me contenter d'une glorification tautologique du seul plaisir du texte, et dois donc aller y voir de plus près, au prix d'une certaine violence, dont je m'efforcerai autant que faire se peut de limiter les dommages collatéraux. Cela précisé, on sait qu'en régime romanesque canonique, la situation narrative établie à l'origine est d'ordinaire stable sur la longueur du récit. Par exemple, la narration y sera continuellement ultérieure, et le plus souvent extra- et hétérodiégétique, ou un peu moins, canoniquement aux yeux de certains ou certaines, extra- et homodiégétique. Il ne s'agit bien sûr pas là d'une norme intangible, dont les écrivains ne devraient à aucun prix s'écarter, et au cours des XXe et XXIe siècles, il n'a pas manqué d'auteurs variés pour malmener cette hypothétique orthodoxie. Mais le trait remarquable du post-exotisme est que l'ensemble des traits définitoires de la situation narrative y font avec constance l'objet d'un brouillage savamment orchestré et axiologiquement justifié, de sorte que le traitement déceptif de la voix représente une composante majeure de l'œuvre. Certes, et de façon parfaitement compréhensible, d'un livre à l'autre, le phénomène connaît des variations d'intensité. Mais force est de constater qu'il est bien présent dès les premiers textes. Ainsi, de la mosaïque de pièces variablement originées, qui compose « Biographie comparée » de Jorian Murgrave. D'emblée, les heures de ses lettres de lecteur, notes de service, extraits de rapport, etc., en même temps qu'ils compromettent l'aboutissement de l'enquête sur le Murgrave en atomisant son portrait, introduisent une polyvocalité aux accents carnavalesques. Plus encore, la deuxième fiction publiée, « Des enfers fabuleux », est tout entière édifiée, si l'on ose dire, sur le brouillage de l'origine de voix narrative concurrente qui s'invagine jusqu'à dessiner l'équivalent littéraire des célèbres figures impossibles des chairs, par exemple les mains se dessinant. En atteste la notice de quatrième de couverture, efficace liseuse, qui désigne à l'attention des récepteurs le point nodal du texte auquel ils s'apprêtent à se confronter. Je cite « qui raconte les histoires que l'on va lire, qui crée et manipule les destins souvent atroces de leurs personnages. Serait-ce l'étrange voix qui s'enroue, comme la mienne, et résonne sur la côte déserte, avec pour seuls auditeurs les crabes du rivage? Serait-ce au contraire l'ultime survivant d'une communauté polaire dont depuis des siècles les moines voyagent vers les étoiles en s'infiltrant dans les rêves de ceux qui souffrent? Ou bien les deux conteurs ont-ils engagé un combat et confondent-ils leurs imaginations en un seul labyrinthe? Fin de citation. L'accent est ici clairement porté sur l'indécidabilité du point origine des voix dont l'affrontement tisse le texte à la faveur d'une monstrueuse phagocytose réciproque. Dès 1988, le brouillage vocal apparaît donc comme un enjeu essentiel de cette écriture, avant même l'invention du post-exotisme. Pour suivre ce relevé de façon exhaustive, en suivant l'ordre chronologique de parution des textes, serait excessivement chronophage, fastidieux et pour partie redondant. Mieux vaut donc se concentrer sur l'analyse d'un nombre réduit d'exemples, après avoir toutefois signalé l'existence de leitmotifs qui naissent du retour de deux formules. X appelle Y, Y répondait. Si, en tant que tel, ce mécanisme d'apostrophe n'introduit pas de dysfonctionnement vocal stricto sensu, en convoquant le modèle de la communication radiophonique du sein d'une narration littéraire, il n'en flirte pas moins avec une forme de transmédialité qui, elle, peut se révéler perturbatrice. Sans même parler des parasites qui nuisent à ces échanges, sur les lignes post-exotiques, la friture n'est pas rare. Quand je dis X, je pense bien sûr à Y. Ce procédé récurrent de substitution identitaire joue un rôle de tout premier ordre dans le flou qui affecte la voix post-exotique. Bref, ces leitmotifs témoignent, si besoin était, de l'importance de la voix et de ses déformations dans l'univers post-exotique. Mais certains textes, par l'originalité du traitement qu'ils réservent à ce paramètre, méritent qu'on s'y attarde. À commencer par la séquence inaugurale de Bardo, Ornod Bardo, intitulée « Baroud d'honneur avant le Bardo ». Pour mémoire, voici quelques éléments de l'intrigue. Comme une forme, irréductible, militant égalitariste, est révolvérisé par un tueur à la solde du capital devant le poulailler d'une lamasserie. Le récit compte son agonie entre Drumbog, vieux moine dysentérique, préoccupé par l'imminente traversée du Bardo par son ami, et Strobusch, renégat de la cause égalitariste, soucieux de lui soutirer la liste de ses réseaux clandestins pour les désactiver. À la suite d'un quiproquo, l'agonisant se préparera à sa rencontre avec la claire lumière, sur fond de lecture croisée du livre des morts tibétain, d'un recueil de cadavres exquis surréalistes et d'un manuel de cuisine tibétaine. Sur le plan formel, l'ouverture in medias res pourrait tout d'abord donner l'impression trompeuse d'une forme d'académisme narratif. Les temps verbaux du passé suggèrent une narration ultérieure. La discrétion du narrateur, retranché derrière un anonymat de convention, semble correspondre au type extra-hétérodiégétique. Mais cette illusion ne durera guère, et l'étonnement consécutif à sa dissipation sera à la mesure même de la perte brutale du confort de lecture qu'elle avait paru programmée. Premier élément perturbateur, l'attribution à Drumbog, dans le cadre d'un dialogue, d'un curieux emploi de la deuxième personne. « Vous aussi, le lait fermenté ?»« Aïe aïe aïe, les diarrhées que ça vous provoque !» Curieux, car la suite du texte nous apprend que Drumbog tutoie, comme une forme. D'où la perplexité du lecteur, lisant plus loin cet autre propos du moine. « Ça va être mon tour, vous allez voir, je ne vais pas y couper. » Qu'il est tentant d'interpréter comme une adresse métaleptique au narrateur. Encore, n'y a-t-il sans doute là pas de quoi fouetter un yak, tant ces ambiguïtés énonciatives sont somme toute discrètes. En revanche, la rassurante situation narrative initiale vole en éclats dès lors qu'apparaît un nouveau personnage. Une superbe femme oiseau, plus que moulée dans une combinaison grise d'exploratrice, qui va commenter la scène en s'adressant à un enregistreur vocal. Mais plus que l'étrangeté du personnage, c'est le mode même de sa désignation qui retient ici l'attention. Je cite, « Elle s'appelait Maria Henkel, comme moi. Elle était là pour décrire la réalité et pas du tout pour en faire partie. » Fin de citation. Plusieurs points peuvent ici déconcerter. Tout d'abord, en raison de l'emploi inopiné du pronom « moi », la perception de la relation de personne est modifiée. D'apparemment hétérodiégétique, elle se révèle en fait homodiégétique, ce qui incite à réinterpréter en ce sens les pages précédentes et conditionne de même la réception de celles qui vont suivre. Ensuite, l'assimilation identitaire de ce personnage féminin et du narrateur peut désarçonner un lecteur peu accoutumé au post-exotisme. En inférer que la narration première est assumée par une narratrice nommée Maria Henkel semble de l'ordre du réflexe plausible, mais laisse en suspens un autre problème. L'identité onomastique recouvre-t-elle ou non une identité ontologique? Autrement dit, y a-t-il deux Maria Henkel ou un simple subterfuge énonciatif? Difficile de trancher sans chercher quelques secours au-delà des frontières de ce seul texte. Enfin, combiné à sa localisation diégétique, la spécification de la fonction purement testimoniale dévolue au personnage de la femme oiseau est également surprenante, puisque si l'on résume, en termes de niveau, le récit est conduit par un narrateur extra-diégétique qui fait mention de l'existence d'une narratrice de deuxième niveau, c'est-à-dire intra-diégétique, laquelle use pour s'acquitter de sa tâche d'un enregistreur vocal. Au système d'enchâssement déjà compliqué par l'homonymie des instances narratrices, s'ajoute donc la question de la différence des médias utilisés et de leur éventuelle concurrence. De fait, la suite du récit est rythmée par l'entrecroisement de ces deux paroles narratives. Certes, les temps grammaticaux permettent dans une certaine mesure de désambiguiser cette situation énonciative remarquablement complexe, comme dans l'extrait suivant. La proximité du décès de Cominform l'impressionnait. Il était écrasé par le poids de la responsabilité qu'on lui avait confiée. Il s'éclaircit la gorge. Strobouche se rapproche des oreilles de Cominform sans prendre garde aux taches de sang, décrivit Maria Henkel. La proximité du décès de Cominform l'impressionne. Fin de citation. À la narration première, l'imparfait, temps usuel en régime romanesque. À la narration seconde, le présent de l'indicatif, caractéristique de la simultanéité du reportage sur le vif, si j'ose dire. De plus, l'incise au prétérit, décrivit Maria Henkel, constitue un efficace indice à valeur démarcative. Mais en dépit de cette clarification de la hiérarchie des voix, on conviendra tout de même qu'il y a quelque chose d'étonnant dans ces phénomènes de redite ou d'écho à quelques lignes d'intervalle. Autant, voire davantage, que le récit de l'agonie de Cominform, baroud d'honneur avant le bardo, semble ainsi proposer celui de sa mise en voix. La spectacularisation de la scène énonciative finirait alors par occuper le premier plan du texte. D'autant que la hiérarchisation des voix est en fait beaucoup plus ambiguë que ce qu'a pu donner à penser cette présentation hâtive. Au fil du texte, le lecteur est en effet régulièrement conduit à se demander « qui dit quoi ?», en particulier lorsque l'emploi de phrases nominales le prive des points de repère que constituent les temps verbaux. En outre, le cloisonnement des niveaux narratifs est également inquiété. Je devais lutter contre la tentation de me rapprocher d'elle, de l'enlacer ou de lui sourire. Cet aveu du narrateur primaire révèle que loin de n'être qu'une pure instance narrative désincarnée, il pourrait délaisser son rôle de simple témoin pour évoluer en tant qu'actant au sein de la diégèse. Quant à Drumbog, à la faveur d'un semblant de soliloque, il lui arrive ponctuellement de faire entendre ce que l'on peut considérer comme une voix narrative tierce, dont le lecteur semble le seul destinataire plausible. Je cite « Ils ne sont pas ensemble, ces deux-là », estima Drumbog à haute voix. « La femme est nue, elle est jolie. Elle appartient à une autre civilisation que la nôtre. Ce doit être une exploratrice venue d'un autre rêve. Seul le type qui brandit le pistolet est dangereux. » Fin de citation. On constate que la fiction du reportage, enchâssée dans la narration première, permet de faire vaciller hiérarchie énonciative comme frontière entre niveaux narratifs. Drumbog et la femme oiseau évoluent tous deux au même niveau, intra-diégétique, mais deviennent à tour de rôle personnages méta-diégétiques de la narration de l'autre. Invagination, une fois encore, dedans et dehors, échangent leurs positions respectives. Pour résumer, stratification de voix narratives plurielles et pour partie redondante, ambiguïté du statut des divers énonciateurs, possibilité de déplacement métaleptique, mise en concurrence de la narration littéraire rétrospective et du reportage radiophonique simultané. Ces caractéristiques, également présentes dans d'autres sections de Bardot en Bardot, confirment non seulement que la question de la voix est centrale dans l'esthétique post-exotique, mais encore que sa mise en scène ou en spectacle en constitue un enjeu primordial. Se pose alors la question cruciale de l'impact pragmatique de tels dispositifs. Un autre exemple, des anges mineurs, permettra de tenter d'y répondre. De tous les textes post-exotiques, ce recueil de Nara est celui qui fait l'usage le plus intensif du leitmotiv déjà signalé, assorti de variantes. En voici quelques exemples parmi bien d'autres. En disant « je prends aujourd'hui la parole au nom de Laetitia Scheidman. Quand je dis « on », je pense à Bella Mardi-Rossien et à nul autre, évidemment. Quand je dis « je », c'est à Krilly Gompo que je pense, cela va de soi. Et quand je dis « on », je pense ici surtout à moi-même, c'est-à-dire à Jessilo, etc. Sous couvert de clarifier le fonctionnement énonciatif du texte, ces incidentes métatextuelles récurrentes contribuent à contrario à le brouiller, du moins dans un premier temps. Dans la mesure où les pronoms personnels sont ainsi privés de leur habituelle stabilité ou rigidité référentielle. Dès lors, « je » ou « on » est toujours « un autre ». S'ensuivent, pour le lecteur, de considérables difficultés à doter le texte d'un point origine fiable. Pour compenser l'inconfort que génère une parole insituable, sans doute est-il tentant de simplifier la scène énonciative et de référer l'histoire racontée au seul Will Scheidman, personnage de la fiction qui monologuerait quotidiennement les séquences narratives constitutives des anges mineurs en présence de ses aïeuls. Telle est l'hypothèse que paraît encourager le Nara 22. Mais pour apaisante qu'elle soit pour l'esprit du lecteur, elle fait tout de même bon marché des ambiguïtés suscitées par la lettre du texte. Je cite brièvement, « 21 et bientôt 22 naras étranges, pas plus d'un par jour, que Will Scheidman avait composé en votre présence. Et en disant « Will Scheidman », je pense à moi, bien sûr. » Et donc, il monologuait ici un 22e irrésumable impromptu. Fin de citation. Cette clarification ne va pas sans ombre portée. D'une part, en raison des fluctuations pronominales qui affectent sa formulation même, d'autre part, et surtout, à cause de son inscription dans la série des autres formules de type équationnel, x égale y. De plus, même si pour certains subsiste l'impression que c'est bien Will Scheidman qui assume la parole narrative, le Nara 43 vient rétrospectivement l'ébranler. Je cite, « De temps en temps, toute lumière sombrait. Je ne savais plus si j'étais Will Scheidman ou Maria Clementi. Je disais « je » au hasard. J'ignorais qui parlait en moi et quelles intelligences m'avaient conçu ou m'examinaient. Je ne savais pas si j'étais mort ou si j'étais morte ou si j'allais mourir. Je pensais à tous les animaux décédés avant moi et aux humains disparus et je me demandais devant qui je pourrais un jour réciter des anges mineurs. » Fin de citation. Qui parle ici? Clementi? Scheidman? Quelques voix tierces que la terminologie post-exotique désignerait comme surnarrateur, il est impossible de trancher, car cet habituel lieu de certitude qu'est l'origine énonciative est ici et ainsi commué en son contraire, un lieu d'incertitude. Qu'en résulte-t-il? Certes, en raison de ces permanents et en définitive insolubles vacillements énonciatifs, le lecteur est par la force des choses conduit à se demander qui parle. Mais est-ce à dire que son attention est alors nécessairement centrée sur une activité de textualisation? Une telle hypothèse serait selon moi réductrice, car l'objectif sous-jacent ne semble pas seulement de proclamer l'hyperlittérarité du texte en exhibant les modalités atypiques de sa scription. J'y verrais bien plutôt une stratégie favorisant au plus haut point la promotion de l'imaginaire. En effet, comme déconnectés de leurs sources, les voix flottent dans l'espace du texte. Finir de guerre lasse par renoncer à les situer permet dès lors, paradoxalement, de mieux s'ouvrir à leur écoute. Si trop d'origines, pour partie contradictoire, les désorigines, ces voix résonnent ainsi avec une force décuplée par l'apesanteur, à l'apostrophe, et portent d'autant plus efficacement les visions qui par leur canal s'expriment. Plutôt qu'un simple outil didactique au service d'une initiation désormais somme toute banale à la littérature littérale, le traitement déceptif de la voix narrative serait donc un instrument au service de l'essor et du déploiement de ces images spécifiques. Jouir du texte post-exotique supposerait alors, sans perdre de vue la forme, qui de toute façon ne se laisse guère oublier, de se montrer sensible à la force qui la sous-tend et la déborde de toutes parts. À l'appui de cette hypothèse, on fera observer que deux traits principaux concourent ici à la promotion de l'imaginaire. Des phénomènes de déplacement, puisque l'origine de la voix ne se trouve jamais là où on l'imaginait. Soit qu'une relation de personne en apparence hétérodiégétique se révèle homodiégétique à la faveur d'une intrusion narratoriale, soit au sein même de la relation homodiégétique qu'un narrateur, Y, chasse l'autre, X. Des phénomènes de condensation, puisqu'une seule et même voix témoigne de la fusion d'au moins deux entités. Déplacement et condensation, on reconnaît là les traits majeurs du rêve, selon Freud. Ainsi peut-on identifier dans ce traitement de la voix narrative une logique onirique, d'ailleurs valable de façon beaucoup plus générale à l'échelle de l'univers en question. De fait, l'inscription dans cette perspective est fréquemment revendiquée du sein même des fictions. Comme l'atteste parmi bien d'autres le bref extrait de Bardot, Arnaud Bardot déjà cité, ce doit être une exploratrice venue d'un autre rêve, ou encore l'argument de nombre de récits où les rêves servent tantôt de moyens de coercition, tantôt de moyens d'évasion, voire de moyens de locomotion. De plus, cette logique onirique affecte bien sûr non seulement les voies narratives proprement dites, mais encore les univers diégétiques qui résultent de leur déploiement. De nouveau, même si ces textes fonctionnent en régime de fiction majeure, le contenu diégétique y est bien plus irréalisé que déréalisé, car le but n'est visiblement pas ici de ressasser la fictionnalité du narré, mais de l'étrangéiser afin que l'imaginaire tourne à plein régime. En termes pragmatiques, les dispositifs post-exotiques ne visent pas tant à ruiner la crédibilité de ce qui est raconté qu'à favoriser un autre mode de croyance semblable à celui qui accourt dans l'expérience onirique. Si la lecture de fiction est d'ordinaire apparentée à la rêverie diurne, dans le cadre du post-exotisme, la proximité concerne selon moi bien plutôt le rêve nocturne, sur fond de congé partiel donné à la conscience vigile. Le lecteur sympathisant est en quelque sorte convié à rêver ces univers fantasmatiques en accueillant et réactivant la charge imaginaire qu'il recèle. Altération de la relation de personne, invagination des niveaux narratifs, multiplication des mises en abîme aporétiques, usage généralisé de la métalepse par surcroît compliqué de transmédialité, sont quelques-unes des principales techniques favorisant cette onirisation du fictionnel. Mais il conviendrait d'y ajouter le traitement de la temporalité, intensément déconstruite, et de l'espace, dont le polymorphisme atypique culmine sous la dénomination d'espace noir. Homme de bonne volonté, le lecteur sympathisant est, comme son nom l'indique, par nature disposé à accepter l'étrangeté consubstantielle à ses fictions et à faire sienne leur logique onirique. Mais pour reprendre le distinguo volodinien, qu'en est-il du lecteur de librairie ? L'écart esthétique considérable, induit par ces multiples et intenses transgressions des canons réalistes, ne risque-t-il pas de lui fermer la porte de ses fictions, le privant ainsi d'une enrichissante confrontation à l'altérité ? Si l'on accepte de maintenir la réflexion sur le plan théorique, pour éviter qu'elle n'achoppe sur l'incompressible diversité des idiosyncrasies, des idiotes de syncrasie comme disait Pérec, à cette question, il est possible de répondre par la négative. En particulier, pour nous en tenir à l'objet de cette communication, parce que le post-exotisme propose une forme de propédeutique à son traitement anomique de la parole narrative, accompagnement de la lecture que l'on pourrait résumer d'une formule un peu clinquante, vous m'excuserez, la voix, mode d'emploi. Cette tentative de familiarisation du lecteur avec les particularités vocales du post-exotisme repose sur des ressources convergentes et non exemptes parfois de chevauchements. À commencer par les auto-stéréotypes. On sait en effet que pour être tout bonnement possible, selon les théoriciens de la réception, la lecture littéraire a besoin de reposer sur du déjà lu. De façon remarquable, les fictions post-exotiques parviennent à respecter ce critère en l'adaptant dans une perspective endogène. Dans chaque texte, les distorsions de l'orthodoxie vocale font retour avec une insistance telle que, passé le premier effet de surprise, cette récurrence même est en mesure de favoriser une forme d'accoutumance sur le mode, en amont, de la régulation homéostatique, en aval, de la mithridatisation homéopathique. Ces touches successives d'anomie finissent par générer une autre norme, typiquement post-exotique, avec laquelle son parcours au fil du texte permet au lecteur de se familiariser. Le simple fait que l'on puisse repérer la constitution de leitmotiv énonciatif, quand bien même paradoxaux, accrédite cette hypothèse. Et compte tenu de la dimension notoirement cohésive de l'édifice post-exotique, il paraît évident que, déjà valide pour chaque texte considéré isolément, l'autostéréotypie l'est a fortiori à l'échelle de l'œuvre considérée dans sa globalité. Par exemple, pour qui aura fréquenté plusieurs de ces fictions, plutôt que de passer pour un facteur de surprise, la formule « quand je dis X, je pense à Y » pourra finir par revêtir une valeur de signal de reconnaissance. Paradoxalement, le poison que recèlent ces distorsions énonciatives pour le lecteur de librairie se fait donc graduellement à lui-même son propre antidote. J'ai déjà signalé que ce leitmotiv présentait une dimension auto-réflexive. Précisément, ce sont les ressources métatextuelles qui viennent, ponctuellement mais de façon récurrente, renforcer les effets de l'autostéréotypie en orchestrant une manière d'introduction aux plus déconcertantes particularités vocales du post-exotisme, ainsi décryptées et motivées. Dans un souci d'économie, je ne donnerai que deux exemples. Je cite, « Lorsque Mingrelian parle de Mevlido, il donne aussitôt à son récit une tonalité de nostalgie affectueuse, une coloration bienveillante que les événements ne justifient pas, quelque chose comme une tendance assumée à la complaisance. » Complicité totale et douloureuse, estime Diplane dans une note manuscrite qui accompagne le romance de notre collaborateur Apuleius IV. Entre le narrateur et son personnage, il n'y a, hélas, pas l'épaisseur d'une feuille de papier à cigarette, surenchéri Jokog Gans, lui aussi réviseur, pour les rapports transmis aux organes. Fin de citation. Ce principe de complicité totale ou de camaraderie authentique est en outre, à quelques pages de distance, étendu à la sphère extra-diégétique. Je cite, « Entre nous et Mingrelian, comme entre Mevlido et Mingrelian, il n'existe pas, hélas, s'exclamerait Jokob Gans, l'épaisseur d'une feuille de papier à cigarette. » Fin de citation. Les incidentes métatextuelles relatives aux causes de la fusion des voix sont ainsi présentées comme valant également pour la narration première de Songe de Mevlido. Par conséquent, même si les symbioses énonciatives continuent de battre en brèche l'orthodoxie romanesque en la matière, elles sont très loin de se résorber en un asémantisme qui pourrait devenir rédhibitoire. Bien au contraire, le métatextuel favorise la mise en place de nouvelles normes de lisibilité qui sans aucunement entraver le fonctionnement de l'imaginaire, puisqu'il y a fictionnalisation du commentaire, permettent un retour du sens gratifiant pour le lecteur. De la sorte, les spécificités du système vocal ne sont nullement désamorcées, mais simplement rendues plus accessibles au lecteur de librairie, qui pourra, moins difficilement, trouver son chemin dans ce dédale de voix. Les séquences métatextuelles jouent donc le rôle de passerelle entre les terres d'exil du post-exotisme et le monde où nous vivons et lisons. En outre, et en dépit des subtiles différences qui affectent les univers diégétiques des divers textes, comme pour les autostéréotypes, la cohésion architecturale de l'œuvre renforce considérablement l'efficacité du procédé. Par exemple, les lecteurs sympathisants que vous êtes auront bien sûr identifié dans les quelques lignes précédemment citées pour le moins quelque écho d'un des plus décisifs passages du post-exotisme en 10 leçons, que je cite tout de même. Je dis « je crois », mais on aura compris qu'il s'agit là aussi de pure convention. La première personne du singulier sert à accompagner la voix des autres, elle ne signifie rien de plus. Sans dommage pour la compréhension de ce poème, on peut considérer que je suis mort depuis des lustres et ne pas tenir compte du jeu. Pour un narrateur post-exotique, de toute façon, il n'y a pas l'épaisseur d'une feuille de papier à cigarette entre la première personne et les autres, et guère de différence entre vie et mort. » Fin de citation. 9 ans avant « Songe de Mevlido », la donne énonciative était en ces termes fixés, et elle rayonne, tant rétrospectivement que prospectivement, en direction des autres textes qui environnent la leçon 11 sur la flèche du temps, si cette notion est maintenue. Il serait inexact d'affirmer que la connaissance du post-exotisme en 10 leçons est indispensable à la lecture des autres volumes post-exotiques. Mais en tant que pierre de touche ou clé de voûte, c'est selon, de l'édifice, ce texte autorise toutefois une notable plus-value sémantique. Cet apport de sens provient en grande partie de l'inscription dans le xénogenre de la leçon, qui induit une considérable intensification du geste métatextuel, à la faveur de ce qui ressemble d'assez près à un art poétique fictionnalisé. Chacun sait en effet que la plupart des traits définitoires de cette esthétique y sont dialectisés, tenants et aboutissants compris. Pour ce qui est de ma problématique, il faut mentionner les termes concernant la qualification des voix, surnarrateur, sous-narrateur, hétéronyme anonyme, voix muette, contre-voix, voix morte. En outre, il bénéficie d'un éclairage accru à la rubrique « Le romance », en particulier aux entrées « Non repentir du narrateur » et « Mort du narrateur ». Je cite « La distorsion de la voix et la confusion dans le nom véritable des donneurs et preneurs de parole est ainsi une caractéristique du romance. Derrière l'auteur, porte-parole et signataire du livre, et derrière la voix du ou des narrateurs mis en scène dans le livre, il faut replacer un surnarrateur qui s'est effacé et qui, en un processus de camaraderie intime, contraint sa voix et sa pensée à reproduire la courbe mélodique d'une voix et d'une pensée disparue. » Fin de citation. Les phénomènes de déplacement et de condensation qui touchent la voix trouvent ainsi leur explication et plus encore leur justification. On observe par surcroît que dans le système ainsi défini, l'esthétique a indissolublement partie liée avec l'éthique, l'idéologique et le politique, à travers la fiction d'une communauté carcérale de révolutionnaires vaincus, en but aux persécutions des sbires du capitalisme. À quoi il faut ajouter le métaphysique, sous les aspects de la mort autoproclamée du narrateur, seul mensonge littéraire, à quoi il peut se raccrocher sans malaise. On constate donc que si le traitement post-exotique de la voix narrative se situe aux antipodes de tout académisme romanesque, la convergence des ressources de l'autostéréotypie et du métatextuel permet de résorber l'écart ainsi induit avec l'horizon d'attente des récepteurs via l'institution de nouvelles normes de lisibilité qui reposent sur une motivation systématisée des propriétés de ce xéno-univers. De ce mode d'emploi, la leçon constitue la pièce maîtresse. À certains égards, le post-exotisme pourrait donc passer pour un système clos sur lui-même, totalisant, voire totalitaire. Mais un tel diagnostic, qui traîne ici ou là, ferait fâcheusement bon marché de l'équilibre entre les forces centrifuges et centripètes qui sous-tendent cette création. Certes, il est légitime de parler de clôture, car la notion de post-exotisme confère à l'œuvre singularité, cohérence et apparence d'autonomie. Mais il y a simultanément ouverture, puisque ce permanent « work in progress » favorise l'intégration harmonieuse des productions à venir. En outre, la même tension informe le rapport de l'œuvre au monde. Posée comme radicalement étrangère et étrange, elle n'en déploie pas moins, par le biais de la fiction, un discours sur l'histoire politique du XXe siècle. Or, ce rapport spécifique au monde pose avec acuité la question de l'identité, de la place et du rôle de l'auteur post-exotique. Dans cette xénolittérature, que devient cet habituel garant de l'œuvre, son signataire, en même temps que responsable et bénéficiaire légal? La leçon 11, une fois encore, peut nous éclairer sur ce point. Je cite « Le narrateur cherche à disparaître. Il se cache, il délègue sa fonction et sa voix à des hommes de paille, à des hétéronymes qu'il va faire exister publiquement à sa place. Un écrivain de paille signe les romances, un narrateur de paille orchestre la fiction et s'y intègre. » Fin de citation. L'auctoritas est ainsi à son tour subverti. Et le tour ou le coup de force du post-exotisme est de parvenir à étendre cette subversion depuis la fiction jusqu'aux espaces institutionnels du monde réel. Les procédés déclencheurs de ce mouvement centrifuge sont déjà bien connus. Triplication des pages de faux titres de Vue sur l'ossuaire, plaçant sur un pied d'égalité Antoine Volodine, Maria Samarcande et Jean Vlasenko. Attribution par sa page de faux titres du post-exotisme en 10 leçons à une liste de 8 écrivains où Antoine Volodine voisine notamment avec Lutz Bassmann et Elie Kronauer. Rubrique du même auteur dans la même collection à la fin du même ouvrage où les textes effectivement publiés par Antoine Volodine sont recensés, date exacte de publication comprise, mais attribués à d'autres identités auctoriales. Partie des textes, la pratique de l'hétéronymie gagne donc le péritexte, la centrifugeuse est en marche, et elle ne s'arrête pas en si bon chemin, puisque le procédé est également étendu du péritexte à l'épitexte. En effet, dans nombre de ses entretiens, renversant la hiérarchie endoxale, Antoine Volodine se présente comme porte-parole de ses personnages. En outre, il reconduit dans ce cadre l'idée d'une fusion identitaire, métaphore récurrente à l'appui. Je cite « J'ai toujours été extrêmement proche de mes personnages et je l'ai dit et répété. Parfois, pour reprendre une formule de Lutz Bassmann, je crois, il n'y a pas l'épaisseur d'une feuille de papier entre eux et moi. » Fin de citation. Mais plus remarquable encore est la conclusion de « Écrire en français une littérature étrangère ». Je cite ces quelques lignes. « En se référant en permanence aux tragédies archivées dans la mémoire collective, mes personnages épuisés prennent la parole et écrivent des livres. Qu'on me permette ici de me ranger parmi eux, écrivains étrangers et apatrides, pour saluer fraternellement les écrivains français et chinois présents à ce colloque. Merci. » Fin de citation. Porté par la personne de l'auteur, en chair, en os et en voix, dans le cadre d'un discours public, l'assimilation des diverses instances post-exotiques gagne considérablement en force à la faveur d'une exportation de ses valeurs singulières dans les espaces du monde réel. On se gardera bien de n'y voir qu'une innocente et somme toute inoffensive fictionnalisation ludique du discours épitextuel. Tout d'abord parce que l'axiologie même du post-exotisme ne saurait se réduire à une pure et simple supercherie conduite en mode potache. Ensuite et surtout, parce que cette posture d'écrivain de paille trouve un prolongement déterminant dans la signature même de certains des volumes publiés. On sait en effet que depuis la fin des années 90, Antoine Volodine a fait paraître à l'École des loisirs de nombreux textes sous les hétéronymes de Manuela Dreger et d'Elie Kronauer. Dans la mesure où ces noms sont aussi ceux de personnages des fictions post-exotiques, forte pourrait être la tentation d'en inférer que la boucle était ainsi déjà bouclée et le programme de parasitage des espaces éditoriaux réels accompli. Toutefois, en dépit de similitudes partielles avec le reste de l'œuvre, ces fictions s'en distinguaient en raison d'une tonalité différente, comme par leur inscription paratextuelle dans la littérature de ou pour la jeunesse. Voilà pourquoi on estimera plutôt que c'est en 2008, avec la publication sous la signature de Lutz Bassmann de « Avec les moines soldats », que la contamination du monde réel par le post-exotisme est enfin devenue vraiment effective. Car cette fois, cette fiction pourrait sans décalage perceptible être signée Antoine Volodine. Ajoutons que cette post-exotisation de notre monde résulte en bonne logique d'une entreprise collective, puisqu'elle est née d'une amicale complicité avec certains membres des éditions Verdier qui ont créé pour la circonstance une collection intitulée « Voix du post-exotisme ». Amicale, ou plutôt totale complicité, ou camaraderie authentique, pour reprendre les formules déjà citées. En définitive, il n'y a là, selon moi, ni supercherie, ni mystification, au sens précis que Jean-François Gendilloux donne à ces termes. Bien plutôt mise en œuvre, certes jusqu'au boutiste, mais pleinement cohérente, d'une logique expansionniste qui voit l'œuvre-monde empiéter sur le monde. Ainsi, les frontières du dedans et du dehors, de l'intra et de l'extra-diégétique deviennent-elles poreuses. L'invasion hétéronymique repose une fois encore sur des ressources métaleptiques, encore plus intensément transgressives que les précédentes, il est vrai. Mais en l'occurrence, importe au moins autant le discrédit jeté sur la différence entre « moi » et « autrui », entre « le mien » et « le tien », puisque l'auctorialité est aussi, qu'on le veuille ou non, affaire de propriété, fut-elle littéraire. Reste donc pour finir, à dire deux mots, pas plus c'est promis, de la conception de l'auteur qui sous-tend le traitement de la voix dans l'œuvre post-exotique comme à sa périphérie. À l'évidence, elle se situe aux antipodes de la noosphère contemporaine, dans laquelle, pour le meilleur et pour le pire, les écritures de soi font floresse. Le choix d'une identité pseudonyme, Antoine Volodine, est déjà en lui-même significatif d'une volonté par ailleurs fréquemment rappelée de séparer les sphères biographiques et artistiques. Mais la systématisation hétéronymique radicalise cette position et aboutit, plutôt qu'à la mort de l'auteur, à sa mutation. Souvenons-nous de Roland Barthes. Je cite un extrait célèbre du plaisir du texte. « Texte veut dire tissu. Mais nous accentuons maintenant, dans le tissu, l'idée générative que le texte se fait, se travaille à travers un entrelacs perpétuel. Perdu dans ce tissu, cette texture, le sujet s'y défait, telle une araignée qui se dissoudrait dans les sécrétions constructives de sa toile. » Fin de citation. L'idée d'entrelacs s'applique parfaitement au tissage, volume après volume, de l'œuvre post-exotique. Quant à l'araignée, elle en est l'un des animaux emblématiques, pour ne pas dire totémique. Structuration de l'œuvre, et en son sein comme en ses alentours, traitement de la, ou plutôt des voix, autorise, me semble-t-il, à y lire, une manière d'autoportrait de l'auteur en arachnide mutant, doué de facultés de parthénogenèse, en symbiose avec le personnel de ses fictions. Par-delà le clin d'œil, cette métaphore signifie que l'entité que nous connaissons sous le nom d'Antoine Volodine, non seulement accepte, mais programme sa fragmentation et sa dispersion au sein d'une communauté d'entités amies et interchangeables, issues de son imaginaire, et parmi lesquelles il lui est loisible d'évoluer en toute fraternité, tout en espérant que des lecteurs bienveillants et capables d'un peu d'amour acceptent de faire de même. Les morales de cette petite fable animalière, il était une fois un auteur qui se fit araignée, sont sans doute multiples. Pour ma part, j'en retiendrai surtout l'idée que le dispositif technique dont je suis parti, le traitement déceptif de la voix narrative, motivé par le métatextuel puis prolongé dans le monde réel, a partie liée avec le reste de l'œuvre et son système de valeurs. Renoncer à l'enfermement mesquin dans la petitesse de son moi est aussi, bien sûr, affaire d'éthique, de politique et de métaphysique. Suivre ce fil particulier ramène donc in fine à la complexité et à la richesse de la toile post-exotique que ces voix mutantes n'en finissent pas de tisser. Merci de votre attention.
Merci Franck. On parlait hier des espaces paradoxaux qui sont courbes et dans lesquels on part d'un point et on arrive au même point d'une certaine façon. Et je suis très frappée de voir comment, à partir d'une analyse extrêmement précise et technique de ce que tu as appelé en commençant le traitement déceptif de la voix, tu en es venu à traverser un certain nombre de questions, je crois, fondamentales, entre autres ce dont tu as parlé à peu près au milieu de ton exposé sur la promotion de l'imaginaire. Et là, c'est très dommage que tu n'aies pas été là hier, parce que je pense que tant Pierre Ouellette que Guillaume Asselin rencontreraient ou rencontreront des échos dans ce qui a été dit sur les logiques oniriques à partir de là, et de même tout ce qui a été dit sur les auto-stéréotypes et ta conclusion sur les enjeux de l'œuvre. Donc je n'en dis pas plus et je donne la parole à la salle. Qui veut intervenir? Oui, Thierry.
Biographie comparée de Jordan Morave, à la fin la confusion solitaire.
Oui, oui. tu veux une réaction, mais effectivement, je n'ai pas relevé le,
oui, oui, bah,
le passage, mais oui. Et j'ai pensé, je ne sais plus, à une pièce, je ne sais pas s'il y a un clin d'œil intertextuel, mais... J'oserais pas interroger le corpus, mais il y a un vers de Racine ou Corneille qui finit par se mit araignée. Mais là, je crois qu'il y a un jeu de mots involontaire sur le modèle en fait d'une sorte d'homophonie oulipienne, en hommage à Christophe Reig, ici présent. Mais d'après ce que j'ai entendu de la bouche d'Anne, en fait, tout ce que j'ai raconté avait été dit lors des deux premiers jours du colloque.
Je ne dirais pas jusque-là, mais disons que tu as touché un certain nombre de points qu'on avait effleurés, on va dire. Oui, monsieur Savidan.
J'ai trouvé très très intéressante votre approche, et notamment parce qu'elle est tirée et rendait sensible la manière dont joue le brouillage des voix et comment ensuite opère la tentative pour essayer de combler l'écart et essayer de rechercher le récepteur pour essayer de faire populer les voix dans la diffraction des voix. Ensuite, la mise en perspective, comme ça a été rappelé, avec la question d'imaginaire et la question de l'irrationalisation de l'univers fictionnel. Et ensuite, la prise sur le réel lui-même par l'extériorisation d'un certain nombre de motifs. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Et je me demandais jusqu'à quel point ça vous paraît très légitime. Alors, ma question est peut-être très naïve, parce que je ne connais pas le corpus des critiques de l'œuvre de Bodine très très bien. Mais je la pose néanmoins. Est-ce que ça vous paraît légitime de mettre en parallèle ce que vous avez souligné avec ce qui est conventionnellement appelé la critique de la métaphysique de la subjectivité, par exemple, avec la remise en cause de l'idée d'une transparence du sujet à lui-même, etc. Et ensuite, dans le versant plus politique sur lequel vous débouchez, une mise en crise de l'idée selon laquelle le pouvoir a pu être, pour un certain nombre de théoriciens, opératoire précisément dans sa capacité à constituer des individus et des identités. Donc le fait de mettre en branle et de mettre en pièce l'identité pouvant apparaître alors comme une contestation d'un dispositif.
Oui, bah, d'abord je vous remercie par la synthèse que vous faites de mon propos, effectivement, qui est parfaitement fidèle à ce que j'ai voulu présenter aujourd'hui. Pour le reste, en revanche, je vais être obligé, en quelque sorte, de me défausser. Je pense que c'est Bruno Blankmann qui vous répondra de façon beaucoup plus pertinente. C'est seulement une demi-plaisanterie, je m'explique un petit peu, pour tout simplement un problème de manque de compétences. Là, j'ai travaillé, disons, bon, en tant qu'artisan, narratologue, en essayant de décrypter des fonctionnements textuels et de dégager quelques effets de sens. Je pense effectivement que la remise en perspective épistémologique que vous suggérez est tout à fait pertinente, voire indispensable, mais parce que c'est pas, disons, mon champ de compétence, tout simplement, je pense que je serais plus prudent de l'abandonner à autrui. J'ai vu tout de même, en parcourant le descriptif de certaines communications du colloque, que certains parleront des phénomènes que vous envisagez. Mais là, mon but, si vous voulez, n'est pas de prôner une sorte d'enfermement dans l'œuvre qui reviendrait à chanter sa singularité absolue. Elle est de toute façon singulière à certains égards, on ne peut pas le nier. Mais pour le reste, pour cette réinscription, je ne me sens pas vraiment compétent pour vous répondre, tout simplement. Mais donc, bon, ça, c'était un côté un peu jésuite, je vous réponds sans vous répondre. Anne a signalé que j'ai travaillé 3 ans dans une fac jésuite en Belgique, ça laisse des traces. Mais par ailleurs, je pense qu'un certain nombre de collègues ici présents, oui, eux, pourront vous répondre et peuvent le faire d'ailleurs tout de suite, ce qui me rendrait grandement service.
Oui, Mélanie.
Oui, merci pour cette très très belle analyse et qui a un recours aux outils de la narratologie. Je disais moi-même hier que voilà, j'avais recours à ces outils pour analyser le texte qui, à mon avis, c'est clair de sa confrontation avec ces outils-là. Et je voulais ajouter en fait un élément concernant les éléments que vous avez proposés pour expliquer la manière dont le lecteur de librairie parvient néanmoins à se repérer dans cet univers, l'auto-stéréotypie, etc., que j'ai trouvé très intéressant. En fait, pour avoir recours donc aux outils de Gérard Genette, pour l'analyse des niveaux énonciatifs, de l'homo, de l'hétéro, de l'intra, de l'extra-diégétique, etc., je me demande si on pourrait aussi recourir à la notion de point de vue pour expliquer aussi cette facilité que le lecteur peut avoir passé la première surprise à entrer dans le texte, puisqu'il me semble donc qu'en dépit des brouillages énonciatifs, on a finalement une sorte de continuité du point de vue qui se joue en dépit du changement de personne énonciative, du « je » au « il ». Finalement, le coup de force énonciatif se résorbe un petit peu, en quelque sorte, dans l'orchestration d'une forme de continuité du point de vue. Et ce qui me semble tout à fait frappant, c'est que finalement, donc, cette communauté de personnages et de narrateurs ressemble moins à une communauté agonistique, hein, c'est pas vraiment le modèle de l'agone auquel on se réfère finalement pour la désigner, mais plutôt à la métaphore du cœur, toujours la métaphore du cœur fraternel, et qui met le doigt aussi sur cette idée d'une forme de continuité du point de vue qui renvoie à un ensemble de valeurs, de manières d'être, de sentir, de penser. Et finalement, j'aimerais bien vous entendre sur les différences qu'on peut établir entre le roman vologinien et par exemple le roman moderniste, le roman américain, celui de Faulkner ou celui de Dos Passos, qui eux visaient peut-être à organiser précisément une querelle de point de vue ou une confrontation de point de vue très différents via leur éclatement énonciatif. Et puis là, ici, c'est autre chose auquel on a affaire.
Oui, bon, là, brûle pour point, de nouveau, ça va être un peu délicat. Je ne botte pas en touche, mais effectivement, la question du point de vue, bon, je l'ai laissé un petit peu à la marge de mon propos, tout simplement parce que compte tenu de l'intitulé du colloque, je me suis de façon un petit peu scolaire tout de suite centré sur la problématique de la voie narrative. J'ai vu des voies post-exotiques, bon, je me suis dit, je travaille sur la voie narrative. Mais la question que vous posez, en fait, effectivement, est liée à celle que j'ai abordée, surtout si on pense à ce qu'a pu écrire Stenzel, avec la notion précisément de situation narrative qui vise à intriquer, bon, tout le monde n'est pas d'accord sur l'opérativité des modèles qu'il a proposés, mais qui vise tout de même à marier, à amalgamer voix et mode, pour parler en termes genétiens. Hein. Donc effectivement, là je vous avoue que j'y ai pas réfléchi plus avant, mais le fait de voir s'il n'y a pas une espèce de force compensatoire du mode qui justement jouerait un rôle de roue de secours, peut-être pour le lecteur de librairie, en compensant ce que le traitement de la voix peut avoir de déconcertant, me semble une bonne idée. Vous vous êtes en quelque sorte répondu lorsque vous avez déjà vous-même dégagé des effets de sens, en montrant à quel point cette sorte de solidarité ou de stabilité compensatoire du mode bien, était justement à relier à la notion de communauté. Vous avez parlé de cœur, je crois. Bon, en revanche, pour moi, essayer de situer ça par rapport au modernisme américain, là, me pose problème. Je crois que ça nous contraindrait à un grand écart. En filigrane de mon propos, bon, j'ai essayé de faire sentir ce qui, pour moi, déjà distinguait l'œuvre volodinienne, non pas peut-être du nouveau roman, mais de la vulgate critique du nouveau roman telle qu'elle s'est élaborée au fil des dernières décennies. Pour moi, il y a effectivement des choses différentes. En même temps, je ne suis pas en train de dire là que les expérimentations formelles néo-romanesques étaient contraires à l'imaginaire. Je pense justement, puisqu'on a parlé de Rob Grillet tout à l'heure, que contrairement à ce qu'on écrit ici ou là, il n'y a pas de gratuité formaliste chez Rob Grillet, et au contraire une promotion de l'imaginaire, mais un imaginaire autre. Bon, cela dit, c'est vrai que bon, certains nouveaux romanciers se livraient à une forme de littéralisation du roman, dans un but qu'on peut quand même estimer plus ou moins éducatif. Mais il y avait aussi toutes sortes de très bonnes raisons idéologiques à cela, me semble-t-il, à l'époque. Bon, pour le reste, non, je vous dis, Faulkner est... Moi, Faulkner, ce que je retiendrais, plutôt que le jeu de point de vue antagoniste, c'est une fois encore la force des images, qui pour moi me semble vraiment quelque chose de primordial. Je vous avoue que dans Le bruit et la fureur, c'est plutôt ça qui me reste, plutôt en fait qu'une forme de prouesse de récit éclaté à variations multiples. Je suis en train de vous répondre une fois encore, sans réellement vous répondre, puisque là, ça impliquerait vraiment un travail sur le détail du texte, vérifier en fait quels sont les types de fluctuations des formules vocales et éventuellement quel est le type d'articulation avec les fluctuations vocales. Je pense que là, ça impliquerait vraiment une lecture suivie du texte avec en fait, cette idée présente à l'esprit dès l'origine de la recherche. Là, je ne peux pas... je vais dire des bêtises si j'essaye spontanément comme ça d'élaborer à la va-vite une théorie à laquelle il ne manquerait ni un écrou ni un boulon. Je ne suis pas Sartre, j'en suis pas capable.
Oui.
Pierre Desplaines. Moi, je voulais vous
dire. Elle l'a dit. Pierre Desplaines.
Je voulais vous interroger sur le. Ce que vous avez évoqué sur le sens de la propriété et sur le droit d'auteur par rapport à tout ce que vous avez construit. Je me disais, finalement, est-ce qu'il n'y a pas une tension entre une œuvre singulière avec une identité d'auteur figée et une volonté du collectif de l'écrivain aux identités multiples. Et je repense, je me disais, est-ce qu'il n'y a pas un retour, enfin, une volonté de retour là au texte fondateur qui était anonyme et qui était le travail de plusieurs auteurs au fil du temps d'ailleurs.
Je pense qu'il y a cette tension. Là, je suis un peu gêné parce qu'en fait, c'est une fois encore, c'est une question qui s'adresse au corpus plutôt qu'à moi-même. Je crois qu'il y a quand même eu certains propos d'Antoine Volodine à une époque, en fait, déplorant la frilosité du milieu éditorial qui entravait en quelque sorte, enfin, en tout cas, il y a quelques années, cette possibilité d'aboutir justement à cette diversification hétéronymique sur la couverture même des livres, ce qui est quand même quelque chose d'effectivement très fort. Pour le reste, ce que vous signalez, c'est une espèce, si je vous suis, d'impersonnalisation
de la création. Oui, par rapport à ce qu'est la propriété, le droit d'auteur.
Oui, bah, là, je pense que...
Qui a été élaboré depuis Beaumarchais.
Je pense que ça peut être effectivement un point important, dans la mesure où les valeurs de l'œuvre sont bien connues, hein, et où je trouve qu'il y a une formidable cohérence, c'est ce que j'ai essayé de montrer à la fin de ce que je racontais, il y a une formidable cohérence qui excède de très loin les frontières du texte. Bon, j'ai peut-être été un petit peu sévère en disant que pour Manuela Dreger et Elie Kronauer, ça ne fonctionnait pas encore à plein régime, mais il me semble quand même qu'on a effectivement franchi un seuil dans cette direction plus jusqu'au boutiste avec des textes signés Lutz Bassmann. Oui, en fait, enfin, je peux aller que dans votre sens. Là, ce qui mériterait peut-être d'être creusé, mais là, ça impliquerait de sortir des eaux du post-exotisme. Et ce sont peut-être des rapprochements qui me plairaient guère. Mais on pourrait penser à d'autres mouvances qui prônent aussi une forme d'impersonnalisation. Je pense à certains textes oulipiens, je pense en particulier à certains textes calviniens, où on a cette idée du père des récits, et qui entraîne en fait effectivement, mais dans une autre perspective idéologique, qui entraîne effectivement une sorte de congé donné à l'auteur, tel qu'on le conçoit de façon ultra-traditionnelle. Et c'est vrai que l'auteur, du coup, disparaît dans la nature, au profit, soit d'une collectivité qui est ce qu'elle est dans le post-exotisme, soit, dans le cas que j'évoque, une espèce de collectivité humaine sans bornes qui renoue, disons plutôt, avec une espèce de fonction fabulatrice qui mériterait sans doute une analyse anthropologique et qui s'affranchit effectivement de ce qu'on pourrait peut-être considérer comme des vicissitudes, somme toute assez contingentes, du monde où nous vivons. Je ne sais pas si je vous ai répondu. Mais si tu permets, moi j'aurais voulu signaler deux ou trois points sur lesquels j'ai très envie qu'on m'embête. Je pensais qu'on allait le faire. En fait, à propos notamment des outils narratologiques, parce qu'en fait, j'ai pas du tout tenu les promesses du texte que j'avais fait. J'ai sorti l'artillerie lourde jeune Étienne, et il y a des points qui me semblent très intéressants dans la narratologie contemporaine que j'ai pas pu mettre à profit parce que je les ai trouvés assez peu opératoires. C'est notamment ce que Sylvie Patron appelle le tournant cognitiviste de la narratologie, à travers les travaux de Monica Fludernick et de Nuning. Et là, je crois qu'il y a quelque chose que je n'ai pas eu le temps, ni le courage, à vrai dire, d'exploiter. Je pense à tout ce qui tourne autour de la notion de narrateur peu crédible. Parce que j'attendais qu'on me fasse le reproche, je n'ai pas eu le temps. On a quand même des narrateurs très particuliers. Ils sont hébéphréniques, ils sont victimes de tortures, de sévices psychiatriques. Donc je crois que là, il y a une vraie question qui se pose. Il faudrait que quelqu'un d'autre en traite d'ici dimanche, qui est justement de savoir quel est le type de fiabilité ou de manque de fiabilité qu'on peut accorder à ces voix. Et ça me paraît un point extrêmement important qui serait tout à fait complémentaire de ce que j'ai dit et qui s'inscrit encore une fois de plein pied dans un certain nombre de réflexions contemporaines sur l'unreliability de l'instance narrative. Là, je crois qu'il y aurait un beau travail complémentaire à faire dans cette perspective. Manque de crédibilité factuelle ou idéologique, par exemple. Ce sont les catégories que Nuning met en évidence. Donc ce serait pour sortir peut-être de ce que certains considéreraient à tort comme l'ornière de la narratologie jeunétienne. Vous savez qu'il y a des débats quand même assez musclés ces temps-ci sur ces questions. Bon, mais c'était peut-être plutôt mes obsessions narratologiques que mon goût post-exotique qui risquait de primer. J'ai préféré avoir pitié de mon auditoire et ne pas parler de façon trop égoïste des choses qui me motivaient. Mais ça, c'est quand même un point, je crois, qui devrait être mentionné, voire approfondi. Il y en avait un autre que j'ai oublié au fur et à mesure que je vous parlais, ça me reviendra peut-être tout à l'heure.
Y a-t-il un cognitiviste dans la salle? Alors, Thierry?
Oui, je me disais sur ta dernière réflexion, c'était tout à fait juste parce qu'on a chopé sur cette question hier et avant-hier, sur le statut et comment on écoute le discours de Varalia Lodienko dans Des anges mineurs, ainsi que le discours d'Ingrid Vogel qui assimile les bourreaux et les victimes, les terroristes et les policiers. Oui. Et quel statut, quelle crédibilité accorder à ces discours, en particulier pour celui d'Ingrid Vogel, qui ne correspond pas au discours prôné, au discours égalitariste, radical. Il est tout à fait à un autre niveau.
Oui, là je pense en fait que ça participe aussi d'une réflexion sur l'axiologie du texte, donc sur son système des valeurs. Anne se souvient en fait qu'on avait eu des échanges d'ailleurs très intéressants à Moscou.
On en a un petit peu parlé aussi.
À ce propos, parce qu'effectivement, j'ai parlé de déceptivité, il me semble que les valeurs sont quand même beaucoup plus fines, nuancées, contrastées que ce qu'on veut bien en dire ou ce qu'on en retient à première lecture. Il y a un système de sympathie du texte qui semble assez évident, mais quand on creuse, c'est tout de même d'une complexité nettement supérieure, je dirais tant mieux. Parce que du coup tout se remet à flotter et moi, je crois que c'est tout à fait conforme à ce qu'on peut attendre d'une fiction aujourd'hui. Donc on n'est pas dans le roman à thèse, quoi, pour le dire un petit peu hâtivement.
C'est une des questions qui effectivement ont été soulevées. Oui, tu fais une
chose.
Non, mais
oui. Juste faire un parallèle avec ce que j'avais compris aussi de la présentation de Sylvie Servoise, qui, sans situer dans une perspective cognitiviste, faisait le lien avec la question de la mémoire, la notion d'identité narrative, et elle distinguait donc les trois modalités du rapport à la mémoire dans ce qu'elle impliquait de la question du rapport au temps. Et il y avait notamment la question du trauma, la mémoire traumatique, etc. Donc effectivement,
là, ça s'inscrit.
Il y a déjà des éléments qui peuvent se situer dans une perspective qui serait non
cognitive. En même temps, quand j'ai cité Fludernik et Nuning, tel en tout cas que Sylvie Patron les présente, elle parle bien d'un tournant cognitiviste. Donc on n'est pas de plein pied en fait dans un cognitivisme pur et dur. Mais c'est vrai qu'elle insuffle, insuffle des choses qu'on peut estimer manquantes dans le cadre d'une narratologie relativement traditionnelle.
Philippe Roussin.
Oui, à ce propos, en fait, je pense que le problème du narrateur non fiable, ça fait pas partie, ça appartient pas aux catégories de la narratologie de Genet.
Oui, tout à fait.
C'est-à-dire que de toute façon, tout narrateur donne de l'information. Donc il y a plus ou moins d'informations, etc. Mais la notion de fiabilité ou non fiabilité, donc c'est bouffe, quoi. Donc c'est même pas du cognitivisme. Enfin, c'est une interrogation quasiment axiologique, effectivement. C'est pas seulement le degré de croyance. Enfin, c'est le degré de d'accord avec un narrateur. Et donc effectivement, on est obligé de passer par un autre type de narratologie que la narratologie.
Oui,
de Genet, parce que la question de la fiabilité se pose pas. C'est-à-dire, de toute façon, la question là de la fiction et pas en narratologie.
Oui, enfin, simplement, oui, là, je restitue un intertitre du bouquin de Patron, le narrateur, sans prendre position sur la pertinence ou pas de cette parole de seconde main. Oui, non, bon, ce que vous dites est important. En même temps, ça désigne tout de suite un problème sur lequel, à mon avis, on va achoper. Vous avez parlé de croyance. On va avoir une bascule, en fait, de l'étude du texte ou d'une éventuelle intentio, je ne sais pas si elle est auctoris ou operis, à un problème de reconstruction de cette fiabilité via le lecteur. Et donc, c'est ce que Joux va bien montrer dans certains de ses travaux où il essaye de réhabiliter l'auteur impliqué. Bon, il y a quand même une construction de ces instances qui est une construction lectoriale. Et donc, pour moi, quand même, à la fois un pont aux ânes, et quelque chose d'où on peut tomber assez aisément lorsqu'on se hasarde à aborder ces questions théoriques. C'est un peu le drame, en fait, des gens qui veulent travailler sur le texte sans exclure le lecteur. Bon, le drame est également la grandeur de leur tâche, quasi impossible à mener à bien, me semble-t-il. Mais il nous reste du boulot, effectivement, dans cette direction. Mais je vous rejoins tout à fait sur le fait que Genet ne parle effectivement absolument pas de cela, et pour cause, en quelque sorte. Ouais.
Gaspard Turin.
Je me demandais si la question que vous posiez, la crédibilité générale, on ne pourrait pas...
Tu veux te lever et parler plus fort.
Oui, Je me demandais si à la question que vous posiez de la crédibilité du narrateur, on ne pourrait pas répondre en, en disant simplement que cette crédibilité est accordée, qu'on peut accorder au narrateur, elle est tributaire d'une, finalement d'une recollectivisation, d'une collectivisation de la voix, sur un plan local, sur un plan restreint, d'une série de narrateurs qui s'échangent leurs propos. Et qui refuse d'obéir à une vérité, à une idée de vérité absolue, mais qui, qui fonctionne sur la base d'une, d'une réalité commune qui n'a pas besoin d'être, d'être plus crédible que ça, tant qu'ils sont tous d'accord avec ce qu'ils disent, tant qu'on est tous d'accord avec ce qu'ils disent.
Oui, mais le problème, si vous voulez, c'est que lors de votre confrontation au texte, vous n'êtes pas d'emblée membre de cette communauté, hein, et que la question de la crédibilité, là, on la prend en deux sens différents. Il y a, si vous voulez, on est effectivement un peu flic dans l'âme quand on se confronte à un texte littéraire. Et il va bien, enfin, il me semble que le lecteur a du mal à abjurer ce besoin de sens, en fait, qu'on a tous en nous, qu'on le veuille ou non, même si c'est mal et pas beau. Et donc, je crois que la question de la crédibilité, on va devoir la prendre quand même en, des, en un sens beaucoup plus banal, beaucoup plus usuel, et que là, il y a quelque chose qui flotte. Que les écrivains post-exotiques soient tous d'accord entre eux, je crois que vous avez raison. Mais pour nous, on va quand même confronter le système de valeur de l'œuvre à ce que Hamon appelait l'extra-texte diffus de la culture. Ben, c'est celui avec lequel on compose au jour le jour, au quotidien. Et je crois que dans ce contexte, la notion de vérité, bon, si controuvée puisse-t-elle paraître à l'époque contemporaine, ben, quand même, plus ou moins la vie dure. Est-ce que le narrateur dit vrai ? D'autant que là, vous m'avez du coup rappelé ce que j'avais oublié tout à l'heure, et je vous en remercie, il y a quand même aussi... le problème d'une tromperie délibérée. Parce que bon, c'est vrai que les assimilations un peu bêtasses de la fiction au mensonge, on en a assez. Il y a eu de beaux travaux, justement. Bon, on parlait de sortir de la narratologie sur la théorie de la fiction et sur ces questions. Mais effectivement, c'est différent dans le post-exotisme, dans la mesure où le mensonge est donné comme une espèce d'arme de combat. Donc, qu'est-ce que ça devient ? Comment, dans la fiction... Le mensonge, mais le vrai mensonge, hein, pas le mensonge magique égale fiction, comment le vrai mensonge de combat, de lutte, trouve sa place. Donc là, effectivement, vous êtes aussi face à des distorsions de la vérité, mais qui supposent quand même, à minima, qu'il y ait une sorte de vérité quelque part, hein, me semble-t-il. On va dire le faux parce qu'on n'est pas prêt à accepter le vrai, parce qu'il ne faut pas que l'ennemi s'empare du vrai en question. Mais il y a bien un vrai quelque part, il y a donc bien un manque de crédibilité qui n'est pas forcément lié à une déficience mentale, même si certains cas correspondent à cela, mais qui est aussi lié à une technique, une stratégie offensive, me semble-t-il. Donc vous voyez qu'il reste effectivement, ça sont toutes les zones d'ombre que j'ai pas eu le temps, ni peut-être le courage d'explorer, et que, bah, qu'il faudra bien explorer un jour ou l'autre.
Mm-hmm. Autre question ou intervention ? Oui ?
C'est juste un commentaire sur ce qui vient d'être dit. Pour rebondir sur ce que Mélanie Lamarre disait, c'est que c'est à travers cette question de la fiabilité du narrateur qu'on passe du cœur à la gonne. Et c'est la question de la frontière entre le lecteur sympathisant et ce lecteur torsionnaire du texte qui est causé à ce moment-là. Je passe par ça.
Oui, vous avez cette formule, en fait, hein, dont on se souvient, il faut choisir son camp. Bon, donc effectivement, tout à l'heure, quand j'ai entendu parler du cœur par opposition à la gonne, mais là, en fait, vous complétez ce qu'a dit mademoiselle tout à l'heure, il y a effectivement, bah, selon le camp qu'on occupe ou celui dans lequel on se situe, bah, l'une ou l'autre position. Effectivement, les deux sont l'avers et l'envers d'une même médaille, si l'on peut dire. Il va y avoir nous et les autres, et nous contre les autres. Donc tout dépend, effectivement, selon moi, bon, bah, de... du camp que vous occupez.
Et en l'occurrence, nous positionnons généralement comme des lecteurs sympathisants par la forme des choses, mais en réalité, bien souvent, en panologie, nous place dans une position qui pourrait être celle du lecteur qui force le texte. Donc, on parle par les entretiens, par le discours, justement, sur cette séparation entre deux camps des lecteurs, on est toujours à la frontière.
Oui, je trouve aussi, c'est ce qui est très intéressant, c'est de pouvoir, sans renier aucunement son goût pour une œuvre, ne pas strictement obéir à des injonctions présentes dans les textes. Bon, de toute façon, on ne sait pas à quel degré il faut les prendre. Moi, j'ai tendance à estimer de façon peut-être un petit peu adolescente que la désobéissance est par excellence la vertu critique. Il suffit, puisqu'on employait le terme tout à l'heure, qu'on me traite de flic, pour que le flic en moi rugisse, en quelque sorte, et passe à l'attaque. Donc, je crois que c'est intéressant de ne pas aller toujours dans le sens des directives, entre guillemets, du texte, mais de prendre parfois le risque d'introduire un décalage, une fois encore, sans renier en rien le goût qu'on peut avoir pour l'œuvre. Il y a une différence, je crois, entre désobéissance et irrévérence. Et elle me semble être au fondement de notre activité.
Sur cette magnifique formule, c'est très bien. Bon, un petit quart d'heure de...